Vous avez cité son nom, Patricia. Bonjour Alain Baraton.
Bonjour Eric, bonjour Patricia, bonjour à toutes
et à tous.
Vous
avez écrit, vous, des lettres d'amour?
Non, mais j'ai beaucoup apprécié, par exemple, celle de Georges Sand et d'Alfred de Musset, que je vous encourage vivement à relire. Attention, il y a quelques messages subliminaux.
Bon, on lira ça avec attention. Vous évoquez ce matin, Alain, trois plantes qui possèdent un point commun, et ce point commun est d'importance.
Oui, la première plante est Liberis sempervirens, aussi appelée l'aspi, qui produit des fleurs blanches au printemps. La seconde, l'Arabis albida ou arabette du Caucase, fleurit elle aussi le plus souvent blanc, et là encore, au printemps. La troisième, enfin, l'oreille de souris ou Cerastium tomentosum, fleurit comme les deux précédentes.
Vous avez dit oreille de souris?
Oui, c'est bien son nom, comme il existe aussi des plantes appelées oreille d'ours, oreille d'éléphant, oreille de lièvre ou encore plante zèbre, plante tortue, queue de renard, barbe de bouc ou piège à loup.
Les jardiniers qui ne manquent pas d'imagination pour donner un nom aux plantes. Hein.
Oui, mais il manque parfois de vocabulaire. Les trois plantes que je viens de citer et qui possèdent un point commun autre que la couleur et leur période de floraison se sont vues affublées de la même appellation de corbeille d'argent. Fort heureusement, si les jardiniers donnent parfois de bien curieux noms aux végétaux, les botanistes sont davantage regardants sur les termes employés et les ouvrages le précisent. Alors on va être très clair ce matin, la seule et unique plante qui peut officiellement revendiquer le titre de corbeille d'argent, ne croyez donc rien de ce qui est écrit sur tous les sites internet, est l'Arabis albida ou Caucasica.
Et à quoi ressemble cette plante?
Elle est tapissante et peut atteindre une cinquantaine de centimètres de diamètre. Elle se plaît dans les sols rocailleux et il n'est pas rare d'en voir pousser spontanément dans les murets. Ses feuilles sont bleu-gris et ses fleurs sont portées par des tiges rigides longues d'une dizaine voire d'une vingtaine de centimètres. Si un dicton prétend que l'argent n'a pas d'odeur, il n'en est rien dans le jardin. La corbeille d'argent produit un doux parfum. Et à propos de parfum, je voudrais saluer une auditrice qui m'envoie une photo délicieuse, je vous la montre, la photo d'un sansevieria en fleurs. Et elle me dit, voici exactement la petite lettre, « Monsieur Baraton, je joins deux photos à mon petit message. Cette plante a 50 ans, elle met des fleurs tous les 25 ans. Cela est rare et mérite d'être signalé. » Et il est vrai qu'il est très rare de profiter de la floraison d'un sansevieria, une petite fleur qui produit des senteurs délicates. Cela prouve que chez notre amie Thérèse, la plante est heureuse.
Eh bien, nous sommes bien heureux aussi de l'apprendre. Alain Baraton, vos réponses aux questions des auditeurs. Françoise, auditrice, vous demande comment éliminer deux élantes envahissantes.
On l'appelle également le faux vernis du Japon. C'est un arbre, j'allais dire, solide, costaud, qui nous vient directement d'Asie et qui fut même introduit au XVIIIe siècle. D'ailleurs, pour la petite fierté personnelle, le premier pied d'élante fut planté sur le domaine de Trianon, là où j'ai la chance de vivre. Mais il est vrai que cet arbre a une vigueur incroyable. Vous coupez le tronc, des centaines de rejets vont apparaître. Je vous assure que la croissance et la force de la croissance est telle que malheureusement les pavés n'y résisteront pas. Alors comment faire? Couper et éviter surtout d'en planter là où le terrain est exigu, là où il y a des enrochements, là où il y a de la maçonnerie. En un mot, l'élante ne convient que dans les jardins où il y a de la place.
Comme chez vous.
Oui. Il y a de la place au château de Versailles.
150 hectares, il est vrai qu'on est... Oh non.
Royal.
On n'est pas à l'étroit.
C'est royal. Rosalie, faut-il protéger les arômes du froid en hiver? Et si oui, comment procéder?
Eh oui, j'en parlais hier justement. Je vous rappelle que l'arôme est une plante originaire d'Afrique du Sud. Vous avez donc compris que les hivers sont généralement doux dans cette partie du continent africain. Donc il suffit simplement de couper dans quelques temps, mais sans trop tarder, le froid arrive. 3 degrés ce matin, en région parisienne, ça commence à faire un peu frisquet. Donc vous coupez tout simplement les feuilles extérieures, enfin logique, les feuilles sont généralement à l'extérieur, et vous recouvrez le pied d'un épais tapis de feuilles que vous retirez au printemps, permettant ainsi à la plante d'être protégée eh bien, du froid et du gel.
Jean-Paul vous demande, est-il possible de faire changer le genre d'un nif?
Ah, on peut parler de sexe, je crois.
Le sexe des arbres?
Oui, je le pense, parce que les plantes qui sont dioïques, effectivement, sont tantôt mâles, tantôt femelles, comme l'if qui, effectivement, peut être ou est tantôt mâle et tantôt femelle. Mais il s'avère que cette question est subtile parce qu'il existe un arbre qui vit en Écosse, qui est le l'if de Fortingall. Et l'if de Fortingall, qui est considéré comme l'un des plus vieilles arbres du mode d'Europe, 2 à 5 000 ans, les scientifiques sont divisés sur l'âge, eh bien, il est en train doucement, mais certainement, de changer de sexe. Au début, il produisait du pollen, donc il était mâle, et on a vu apparaître récemment quelques baies, ce sont des baies rouges, sur les branches. Et donc, les scientifiques ne comprennent pas comment un arbre qui est né mâle est en train de devenir femelle. Autant vous dire qu'on n'est pas capable aujourd'hui de répondre à la question donc comment faire, mais il est vrai que la nature, elle, est peut-être à notre place, eh bien de transformer effectivement le sexe. Comme quoi, voyez-vous, quand on parle des hommes, des femmes aujourd'hui, des transsexuels, mais la nature, elle aussi, de temps en temps, eh bien se permet de changer de sexe en fonction de ses besoins.
Viviane se demande s'il est bon de couper les fleurs fanées, vous en parliez tout à l'heure, de la corbeille d'argent, ces plantes blanches.
C'est toujours mieux. Le simple fait de couper les fleurs fanées, alors déjà ça permet au jardin d'être un petit peu plus esthétique, et ça permet à la plante de s'économiser. Une graine est toujours produite par une fleur, et c'est généralement une fois que la fleur se fane, et c'est le moment que la plante a le plus besoin d'énergie. En supprimant les fleurs fanées, vous redonnez un petit peps au végétal qui refleurira davantage soit dans la foulée, soit l'année suivante.
Hugues, le manque d'eau, vous demande-t-il, est-ce que ce manque d'eau peut nuire aux arbres qui entrent en dormance? Parce que les arbres entrent en dormance.
Eh bien oui, je crois que... Alors oui, on est un peu perplexe. Moi, je n'ai pas connu une telle sécheresse au nord de la Loire depuis au moins 50 ans. Mmh. Très honnêtement, de mémoire de jardinier, et je ne suis pas tout jeune, vous n'allez pas me contredire, Patricia Martin, ben je ne connais pas. Donc je pense que oui, il peut y avoir des conséquences graves. Il faut donc continuer à arroser tant que la dormance n'est pas véritablement présente.
Quelques conseils pour le week-end.
Un conseil, je vais tout de suite à Arques-Solan dans le Doubs. Vous savez, la Saline Royale, c'est la clôture du 18e Festival des Jardins. Je suis le parrain à vie, donc il faut absolument que j'y sois. L'occasion également de rencontrer ceux qui nous écoutent et qui apprécient ben, mes conseils et nos petites joutes et nos propos du samedi et dimanche matin. Je me permettrai donc, Eric, de votre part, de les embrasser.
Avec un grand plaisir. Vous nous rappelez où c'est ?
Arques-Solan, la Saline.
Près de Besançon ?
Oui, tout à fait. Dans le Doubs.
Merci Alain Baraton et à samedi prochain.